no.
Say yes or no. Yes or no.
La question que nous vous posions hier était la suivante. La guerre entre Israël et l'Iran se poursuit-elle surtout sur le terrain cyber? Alors, pour nous en parler, nous sommes avec Guy-Philippe Goldstein, spécialiste cyber autour et auteur de nombreux livres. Alors, Lise, est-ce qu'on a une idée du résultat de notre mini-sondage aujourd'hui?
Tout à fait, Didier. Très grande majorité de oui. 60% de oui sur X, et c'est le chiffre le moins important. 91% sur Facebook, 93% sur Insta. Donc, on peut dire que les trois quarts de nos auditeurs sont largement convaincus qu'aujourd'hui, la guerre entre l'Iran et Israël se situe sur le terrain du cyber. On va demander son avis à notre invité, Guy-Philippe Goldstein. Bonjour.
Bonjour, Lise. Ravi d'être là.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux, hein, nos auditeurs?
Oui, alors, mis à part les auditeurs de X, apparemment, mais moi, je serais évidemment complètement d'accord avec vos autres auditeurs sur Facebook, etc. Effectivement, la guerre, le conflit, on va dire, entre l'Iran et Israël, s'est maintenu dans le cyber et d'une façon générale. C'est devenu d'ailleurs de manière générale une des normes des relations internationales. Vous pouvez être dans des relations plus ou moins conflictuelles avec certains pays. Même l'ancien chef d'état-major des armées françaises parlait de moments de contestation avant même qu'on entre dans le conflit direct. Et ben, dans ces moments un petit peu gris, eh bien aujourd'hui le cyber prend une place très importante. Et effectivement, évidemment, entre Israël et l'Iran, eh bien le cyber aujourd'hui a une place prépondérante. Sachant néanmoins une chose importante, c'est que on a des modes d'action entre Israël et l'Iran qui sont radicalement différents, radicalement. Du côté iranien, on a tant de choses, on pourra en parler les chiffres, mais d'action depuis le 25 juin, depuis la fin de la phase des combats entre Israël et l'Iran, sans que ça finisse d'ailleurs par un armistice, hein, c'est un point important à signaler parce qu'il explique aussi l'ensemble de ces opérations, de ces manœuvres cyber-iraniennes. On a un déferlement d'opérations cyber-iraniennes. On parle d'une augmentation d'un facteur plus 700% depuis justement l'arrêt des conflits, 450 opérations, etc. Mais, on va faire de façon très large, on en reparlera dans le détail, mais ce sont des opérations qui, en gros, sont là un petit peu pour faire du brouhaha, pour faire parler d'elles, mais qui n'ont pas d'effet opérationnel fort, voire peut-être très peu en réalité. Et puis de l'autre, on a pour le coup des opérations israéliennes très 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 limitées, si jamais elles ont eu lieu depuis le 25 juin, parce qu'on a des sons de cloche un tout petit peu différents, même si on peut imaginer que sur ce qui est prépositionnement et espionnage, on continue à avoir des opérations évidemment, mais donc des opérations limitées. Et pour autant, on a plus de révélations sur ce qui s'est passé entre le 12 et le 25 juin. Et on a aussi des attaques qui, lorsqu'elles sont comprises, eh bien, elles peuvent être redoutablement.
Je disais pendant qu'on vous aviez perdu, Guy Philippe, que l'Iran était quand même très clair, puisqu'il est responsable, selon Microsoft et le Digital Defense Report de 2025, de 64% des activités cyber qui sont dirigées contre Israël. Alors, j'étais d'accord avec vous sur le fait que, par exemple, leur perturbation des services essentiels ne marche pas très bien, mais en revanche, le recrutement d'agents, et ils le font aussi par le biais de cette guerre cyber, ça marche quand même beaucoup mieux. Parce qu'on a eu une bonne quinzaine d'arrestations d'Israéliens ou de Russes demi-israéliens qui avaient été contactés et recrutés par l'Iran via les réseaux.
Oui, alors ça, ce sont des tentatives qui sont d'ailleurs qu'ont démarré depuis 2-3 ans directement via les réseaux sociaux. Mais faut voir aussi qu'à chaque fois, les services iraniens obtiennent des opérateurs qui sont de très bas niveau parce que effectivement ils écrènent de façon très large le web et puis ils essayent de récupérer qui veulent. Il y a un point qui est fondamental, il faut bien comprendre la nature de ces opérations iraniennes. Et je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble dans la foulée du 7 octobre lorsqu'il y a eu au bout du mois de novembre un ensemble d'opérations iraniennes. Souvent, c'est du hack and leak, c'est-à-dire que on fait une petite tentative qui marche pas, mais surtout autour de ça, on communique énormément pour essayer de se faire, entre guillemets, aussi au plus gros que le bœuf. Et on a beaucoup d'opérations comme ça, comme par exemple contre le réacteur nucléaire, Sorek, contre Delek, le groupe pétrolier israélien, contre Spacecom, qui est un opérateur satellitaire iranien, israélien, pardon, où à chaque fois, eh bien, on va essayer de récupérer un petit peu d'informations. On va dire qu'on a été capable d'exfiltrer 10 fois, 50 fois plus de données que le qu'on a réellement réalisé, en mettant en avant qu'on a été capable d'obtenir des informations ultra confidentielles qui montreraient qu'on a peut-être obtenu un contrôle opérationnel sur ces entreprises-là. Et en réalité, tout ça est faux. Et on l'avait déjà vu d'ailleurs en novembre 2023, où les Iraniens avaient fait croire qu'ils avaient été capables de prendre le contrôle d'une caméra de télésurveillance à Nevatim, qui est la base aérienne extrêmement importante israélienne, où il y a les joyaux de la couronne, les F-35, qui permettent de bombarder d'ailleurs en Iran. Et en réalité, pas du tout. C'était une petite localité au nord de Tel Aviv. Donc on est tout le temps dans ce type d'opérations qui sont de l'esbrouf, mais qui sont là aussi peut-être pour envoyer un message à Israël, mais peut-être aussi pour envoyer un message en interne, en Iran, pour dire « Mais non, regardez, on est capable aussi d'être actif et de pouvoir opérer. »
Alors, ce qui est vrai, Guy-Philippe Goldstein, c'est que l'intelligence artificielle a un grand rôle à jouer là-dedans, à la fois du côté de l'attaque pour les Iraniens, pour automatiser les cyberattaques, mais aussi du côté des Israéliens, comme bouclier pour les empêcher. Où on en est de ce côté-là, de votre point de vue ?
Bon, alors, du point de vue de l'intelligence artificielle, ce que l'on voit, je crois que c'était dans le rapport de Microsoft d'ailleurs, c'est que, et c'est entre guillemets de bonne guerre, parce qu'on le voit dans tous les groupes cybercriminels, donc pourquoi pas aussi pour les groupes opérés par le ministère de renseignement de l'Iran ou même par les gardiens de la Révolution, une amélioration des techniques entre guillemets de phishing lorsqu'on essaye d'envoyer un email qui pourrait ressembler précisément à celui d'un de vos collaborateurs parce que c'est écrit exactement pareil, hein. On n'est plus dans le prince nigérien, on est dans quelque chose qui ressemble précisément à si Didier vous envoyait un email, etc. Bon, ben ça on est capable de le faire évidemment avec l'IA générative et il semblerait que l'ensemble des attaques cyber iraniennes destinées d'ailleurs non seulement à des entreprises israéliennes, je les évoquais, mais aussi beaucoup à des petits sous-traitants, dans un volume qui a été extrêmement important, hein, puisqu'on parle de plus de 450 attaques, eh bien ça évidemment, on utilise donc ce qu'on appelle le cyber phishing, donc des emails qui ressemblent énormément à utilisant l'IA générative. Et donc, là, il semblerait qu'il y ait eu une bonne utilisation, entre guillemets, hein, une utilisation importante de l'IA générative là-dessus. Bon. Pour ce qui est après d'opérations plus complexes de ce qu'on appellerait de chaînage d'exploits, il n'y a aucun signe à date réelle qu'on ait pu utiliser de l'IA générative ou tout type d'IA. Il y a probablement des outils qui sont utilisés. Du point de vue israélien, par contre, bah là, on est dans des choses qui sont beaucoup plus sophistiqué, faut le dire, où il y a probablement des outils très avancés qui sont utilisés, et comme je l'avais dit, qui sont utilisés d'une façon où justement on ne fait pas de l'esbrouf, on est silencieux, faut le constater pour les opérations israéliennes, et on est extrêmement efficace. Et on a appris, ça a été révélé, confirmé d'une part qu'effectivement les attaques cyber en termes de prépositionnement ont commencé avant le 12 juin, probablement 2-3 jours avant, et ont permis de neutraliser une partie de la défense aérienne iranienne, ce qui a donc permis à l'ensemble des bombardiers israéliens de pouvoir se balader sans trop de problèmes dans l'espace aérien iranien, d'une part, ça c'est un point important, et l'autre point qui a été révélé dans un article du New York Times, c'est cette capacité, je dois vraiment souligner là-dessus, extraordinaire, entre guillemets, quand je dis extraordinaire, en termes de capacité inouïe, jamais identifiée dans l'histoire militaire, d'être capable de supprimer une trentaine de hauts dirigeants militaires, scientifiques, iraniens, dans les premiers jours de l'offensive israélienne, eh bien là aussi, on le sait, le cyber a joué un rôle absolument prépondérant. Et d'ailleurs, on le sait même, puisque ça a été révélé, qu'on a été capable de identifier les signaux qui venaient des portables des gardes du corps de ces différentes personnes. Et c'est comme ça, apparemment, qu'on aurait été capable de savoir en temps réel où se trouvaient les grands dirigeants militaires, qu'il s'agisse du chef d'état-major des armées, du patron des gardiens de la Révolution, du patron des forces spatiales, etc., etc. Donc, vous voyez comment le cyber, d'une façon entre guillemets silencieuse, mais extrêmement puissante, a joué un rôle fondamental dans l'offensive israélienne, en plus de choses qu'on avait déjà évoquées, comme par exemple le fait de faire tomber la banque SEPA, qui est une des cinq grandes banques iraniennes qui joue un rôle fondamental dans le financement des gardiens de la Révolution, et où là, tout d'un coup, il y a eu par exemple une journée où il n'y avait plus du tout de transactions, il y a des millions de transactions qui sont arrêtées, des comptes bancaires qui n'étaient plus accessibles, voire qui avaient peut-être été supprimés, les accès après aux essence qui était stoppée parce qu'il était lié à la banque SEPA, etc., etc., etc. Donc voilà des effets qui sont extrêmement puissants dans tous les sens, que ce soit conjointement avec des opérations militaires, que ce soit directement face à des institutions financières, et qui n'ont rien à voir dans leurs effets et dans leur puissance par rapport à ce que je disais, l'espèce de brouhaha qui vient de l'Iran, qui est là pour un petit peu occuper le terrain aussi.
Merci Guy-Philippe Goldstein, on en reparlera parce que l'État hébreu se trouve tout de même au troisième rang mondial des pays les plus visés par des cyberattaques, donc on va pas arrêter d'en discuter. Bonne journée à vous Guy-Philippe Goldstein, je rappelle que vous êtes expert en cyber et que vous avez écrit notamment Babel Minute Zéro et également Cyberdéfense et Cyberpuissance au 21e siècle. À très vite.
Merci beaucoup Lise.